13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, on aurait sûrement pu faire mieux. Les mots de la porte-parole du gouvernement après les gros ratés au Stade de France samedi dernier. Le président demande que la lumière soit faite sur ce qui s'est passé. Le ministre de l'Intérieur a toute sa confiance, affirme encore Olivia Grégoire. Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, sont entendus tout à l'heure au Sénat. Cancérigène ou non, le débat sur le glyphosate relancé par un nouvel avis. Célia Kiré nous explique tout à l'heure. Appeler le SAMU avant d'aller aux urgences, rendre les gardes de nuit obligatoires pour les généralistes, prendre en compte la pénibilité à l'hôpital. Voilà quelques pistes de réforme des urgences. Le responsable du SAMU est chargé d'une mission, nous l'entendrons. Plus de questionnaires de santé sous les 200 000 euros d'emprunt et droit à l'oubli 5 ans après un cancer. Des changements importants aujourd'hui pour les assurances des emprunts immobiliers. J'attends vos témoignages au 01 45 24 7000 et via l'appli France Inter. Votre santé vous a-t-elle empêché de faire un emprunt? Les changements du jour débloquent-ils la situation? Appelez-nous pour témoigner. À 13h30, l'une des responsables de l'association Rose Up qui se bat pour ce droit à l'oubli est notre invitée. La programmation des matchs tard le soir peut poser question. Amélie Mauresmo, la directrice de Roland-Garros, concède une réflexion sur cette programmation. Il fallait veiller jusqu'à 1h30 cette nuit pour voir Nadal venir à bout de Djokovic. Trois figures de femmes dans vos chroniques après 13h30. Dans le vif de l'histoire, portrait d'une diplomate hors norme à la veille de la grève au Quai d'Orsay, Suzanne Borel. Un roman emblématique de l'ère Me Too, la fille qu'on appelle dans le feuilleton. Et dans C'est une chanson, une championne de course à pied avec Frédéric Pommier. Elle choisit Ben Mazoué. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Trois jours après le chaos au Stade de France, juste avant la finale de la Ligue des champions de football Liverpool-Real Madrid, le gouvernement peine à sortir de la controverse. Les chiffres de détenteurs de faux billets avancés par Gérald Darmanin sont très largement remis en doute. On n'a toujours pas l'explication sur ce qui a provoqué l'engorgement des spectateurs aux abords du stade, ce qui aurait pu virer au drame. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
Conseil des ministres ce matin, c'est le deuxième de l'équipe d'Elisabeth Borne. Alors que les ministres de l'Intérieur et des Sports doivent être auditionnés au Sénat tout à l'heure, Maxence, après ce conseil, la porte-parole du gouvernement a avancé des mots de regret.
Oui, cette affaire a été évoquée brièvement, selon la porte-parole du gouvernement, lors de ce conseil. Olivia Grégoire a cité les quelques mots d'Emmanuel Macron.
En priorité, le président de la République et l'ensemble du gouvernement étaient tristes et désolés pour ces personnes qui ont tout simplement été privées de match.
Quant à la ligne de défense, elle n'évolue pas, pas de laxisme ce soir-là, 6800 policiers déployés. Le problème majeur, toujours les faux billets, pas de nouveaux chiffres avancés et une volonté de tourner la page.
Est-ce qu'on aurait pu faire les choses mieux ou est-ce que ça aurait pu être mieux géré? Oui. Est-ce qu'il y a eu des blessés? Est-ce qu'il y a eu un drame? Non. Il faut garder un peu de sang-froid, même si les choses sont à améliorer.
Et pendant ce Conseil des ministres, Emmanuel Macron n'a pas eu de mot de soutien particulier pour Gérald Darmanin, preuve qu'il n'est pas fragilisé, selon un participant à ce Conseil. À la quatrième question sur ce sujet, la porte-parole nous a invités à suivre l'audition des ministres de l'Intérieur et des Sports cet après-midi devant le Sénat.
Autre propos d'Olivia Grégoire Maxence qui concerne la réforme des retraites.
Oui, c'est une surprise. À 11 jours du premier tour des élections législatives, Emmanuel Macron a voulu ce matin remettre en perspective cette réforme, essayer d'arrondir les angles.
Cette réforme, elle est indispensable, il n'y a aucun doute là-dessus. Et l'objectif de cette réforme n'est pas de rester bloqué sur le sujet de l'âge légal, qui n'est, et vous le savez, ni un totem, ni un tabou. Le pourquoi de cette réforme a été rappelé avec force par le président de la République.
Avec ces mots, il n'y a pas que l'équilibre du système qui est en jeu. Cette réforme financera de nouveaux progrès, promet le président, notamment pour l'autonomie, la dépendance. La preuve que c'est un propos de campagne, ce rappel n'est accompagné d'aucune annonce, ni sur la méthode, ni sur le calendrier.
Maxence Lambrecq en direct de l'Élysée en ce jour des conseils des ministres avec Johanna Gabric pour France Inter sur le bureau du gouvernement. Il y a également la crise aux urgences. Voici un exemple de plus, un cran supplémentaire dans cette crise. Les urgences de l'hôpital de Montluçon, dans l'Allier, sont partiellement fermées au public depuis hier jusqu'à ce soir minuit. Il n'y a personne au tableau de service. Julien Morcelli, France Bleu Pays d'Auvergne.
Cette patiente a encore du mal à y croire.
Ça paraît inadmissible en France.
Pierrette Guichon, 69 ans, elle est la présidente du comité de défense de l'hôpital.
Eh ben, dans notre petite ville de Montluçon, on arrive à pas avoir une structure capable de nous recevoir. C'est dramatique. Il y a des gens qui vont mourir faute de soins. Aujourd'hui, on dit aux gens, ne tombez pas malade.
Car à l'hôpital, le tableau de service est vide. Catherine Duteil, aide-soignante, représentante du syndicat Force Ouvrière.
Pour que nos urgences tournent normalement, il faut en tout 20 médecins. Aujourd'hui, nous n'avons que 3,5 médecins. Les autres, ils sont partis. Ils ont quitté l'établissement.
Les urgences tiennent grâce aux intérimaires, mais eux aussi viennent à manquer, reconnaît la directrice de l'hôpital, Bernadette Malot.
On a déjà eu des soucis il y a 15 jours, 3 semaines. On avait une journée où on n'avait pas suffisamment de médecins urgentistes et on a dû faire appel au SAMU 03 pour faire des réorientations.
Mais elle refuse de voir le verre à moitié vide.
Là, c'est 3 jours. Le mois de juin, on tourne. Donc, vous voyez, 3 jours sur un mois, on a des établissements qui, je pense, rêveraient même... d'en arriver là. Hein.
La théorie du moins pire, mais la direction l'assure, sauf catastrophe, elle tiendra le choc cet été.
Hier, Emmanuel Macron a promis des réponses très fortes pour consolider les urgences, cet été en particulier, et il confie une mission de réflexion d'un mois au président de SAMU Urgences de France, le professeur François Braun. Il était ce matin l'invité de Marc Fauvel sur France Info. Question-réponse sur les pistes de réforme. D'abord, désengorger les urgences et de la responsabilité de chacun pour le professeur Braun.
Une entorse de cheville qui date d'il y a 3 semaines et qui fait encore un peu mal, c'est pas nécessaire d'aller aux urgences. Dans beaucoup de territoires, nos collègues généralistes apportent une réponse.
Obligation d'appeler le 15 avant de se présenter aux urgences.
Par exemple, c'est une solution qui permet de continuer à prendre en charge les gens qui ont vraiment besoin du service d'urgence et qui aussi permet cette collaboration entre la ville et l'hôpital qui est essentielle.
Est-ce que ça passe aussi justement donc par une réforme de la médecine de ville, rendre par exemple les gardes obligatoires le soir et le week-end pour soulager l'hôpital?
Dans son dernier rapport, le Conseil national de l'ordre des médecins montre que c'est fait dans 96% du territoire. Il faut aller voir ces 4%, pourquoi elles ne sont pas faites, est-ce que c'est un problème de manque de médecins? C'est là que le diagnostic global, on le connaît. Notre rôle, ça va être d'aller un petit peu plus dans le détail pour que cette ordonnance que nous allons faire, elle soit vraiment adaptée à chaque territoire.
François Bourdieu, aussi la question de l'attractivité de ces métiers. C'est-à-dire... Il faudra augmenter les salaires à nouveau à l'hôpital.
Il faudra en tout cas prendre en compte la pénibilité. Plus personne ne veut travailler la nuit et le week-end.
10 euros une garde de nuit à l'hôpital en ce moment, c'est ça?
Pour une infirmière, c'est à peu près 1 euro de l'heure net. Et c'est complètement aberrant. Bien sûr, il va falloir se pencher sur ce problème.
Et environ 20% des services d'urgence réduisent leur capacité d'accueil ou s'apprêtent à le faire faute de personnel. Un des poids lourds du gouvernement, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, était ce matin l'invité de France Inter. Il confirme la revalorisation des retraites de base pour compenser l'inflation. Ce doit être inscrit dans la loi présenté en juillet. Et alors que la majorité fait plutôt au profil bas dans cette campagne des législatives, Bruno Le Maire hausse le ton contre celui qu'Elisabeth Borne a déjà désigné comme le principal adversaire des macronistes, Jean-Luc Mélenchon. Alors que, selon les sondages d'intention de vote, en termes de voix au premier tour, la NUP, l'Union de la Gauche, est à touche-touche avec la majorité présidentielle. Tirade anti-Mélenchon ce matin dans la bouche de Bruno Le Maire, au micro de Léa Salamé et Nicolas Demorand.
D'abord, c'est un personnage autoritaire. On l'a vu dans tout son comportement, la République c'est moi, c'est de l'autoritarisme. Mmh. On le voit dans son projet écologique, où il multiplie les interdictions. Et pour moi, l'écologie, c'est pas la multiplication d'interdictions. Dans le fond, c'est la première chose, il veut faire le bonheur des gens à leur place. Ça s'appelle une vision autoritaire de la politique, je n'y suis pas favorable. En deuxième lieu, il le dit lui-même, il a une vision collectiviste de l'économie. Où en gros, il faut nationaliser beaucoup de moyens de production. Il pense que c'est plus efficace. Moi, je pense qu'il n'y a rien de pire pour une économie, que ce serait un drame pour la France. Je ne veux pas qu'on promette des illusions aux Français, comme la retraite à 60 ans, qui coûte 100 milliards d'euros, qui amènera inéluctablement une augmentation des impôts et des taxes des Français, et qui nous conduira directement, vous m'interrogez sur la dette et les déficits, à la ruine du pays. Et enfin, c'est un projet communautariste. Et moi, je défends une nation universaliste. Il ne m'a pas échappé que la première proposition de M. Mélenchon serait de supprimer la loi contre le séparatisme qui permet de lutter contre l'islam politique et contre le communautarisme.
Et Jean-Luc Mélenchon aura l'occasion de répondre. Il est en meeting ce soir dans le 11e arrondissement de Paris. Autre déclaration de la matinée, Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF, le patronat. Il se dit convaincu que les salaires vont être revus à la hausse dans les semaines et mois à venir. Les entreprises n'ont pas le choix, elles n'arrivent pas à embaucher. Ce 1er juin marque une série de nouveautés dans un domaine important, le crédit immobilier. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour Bruno.
Pour l'assurance emprunteur, Laurent, les conditions se font moins intrusives en matière de santé.
Oui, fin des questionnaires de santé pour les emprunteurs sous certaines conditions, avoir moins de 60 ans, ce qui est la plupart du temps le cas pour les crédits immobiliers, emprunter moins de 200 000 euros, ce qui s'entend pour un couple à deux fois 200 000, soit 400 000 euros pour un ménage. Si chacun est capable d'emprunter en dessous de ces montants, l'assureur ne pourra plus vous demander d'informations sur votre état de santé, ni aucun examen médical. Les surprimes, les refus d'assurer empêchaient jusqu'ici grand nombre de personnes d'accéder au crédit immobilier. Deuxième disposition, le droit à l'oubli pour les personnes atteintes de cancer ou d'hépatite C. Il était de 10 ans jusqu'ici après la maladie. La loi le réduit à 5 années. Donc, pour demander un emprunt, l'assuré n'aura plus d'obligation de déclarer une pathologie 5 années après la fin de son protocole thérapeutique.
Autre point important, Laurent, on peut résilier plus facilement son assurance.
Oui, résiliation à tout moment de son assurance emprunteur. Donc, pour trouver moins cher ailleurs, il fallait jusqu'ici attendre la date anniversaire de son contrat. La fenêtre de tir était limitée. La disposition s'applique dès aujourd'hui pour les nouveaux contrats, puis en septembre seulement pour les assurances emprunteurs déjà contractées.
Alors ça, ce sont les bonnes nouvelles. Moins bonnes nouvelles, Laurent Kramer. Parallèlement, les taux d'intérêt remontent.
Oui, l'argent, très bon marché, accessible à tous les ménages, parfois sans apport initial, disparaît du marché. Les taux d'intérêt remontent. Depuis le mois de janvier, les ménages modestes, les primo-accédants voient leurs conditions d'emprunt rabotées avec des taux qui remontent de 1,10 à 1,70, des plafonds d'endettement également plus stricts, un apport initial exigé par les banques jusqu'à 20% en épargne de précaution sur la somme empruntée qui écarte mécaniquement un quart des dossiers en agence, constatent les réseaux de courtiers.
Merci Laurent Kramer. Vous souhaitez-vous contracter un prêt immobilier? Vos conditions de santé vous bloquaient jusque-là? Appelez-nous pour témoigner 01 45 24 7000. Peut-être êtes-vous toujours bloqué d'ailleurs. Il y a aussi l'appli France Inter rubrique Réagir. À 13h30, nous serons avec Céline Lisroux, ancienne présidente de Rose Up, l'association qui se bat de longue date pour ce droit à l'oubli. Autre chiffre clé dans l'actualité ce matin, les ventes de voitures neuves. Elles sont en baisse en France en mai pour le 10e mois consécutif, moins 10%, en cause notamment la pénurie qui demeure de puces électroniques. Faut-il interdire le glyphosate ou le laisser sur le marché européen? Une nouvelle pièce au débat sur cette herbicide est arrivé hier soir d'Helsinki. Selon l'Agence européenne des produits chimiques, le glyphosate n'est pas cancérigène. Bonjour Célia Kiret.
Bonjour Bruno.
Cet avis contredit ce que dit depuis 7 ans le Centre international de recherche sur le cancer.
Oui, cet avis était très attendu. L'Agence européenne se base à la fois sur des données fournies par les industriels et sur des études scientifiques. Et pour elle, le glyphosate peut provoquer des lésions aux yeux, notamment pour les agriculteurs qui l'utilisent. Il est toxique pour les milieux aquatiques, mais il ne présente pas de danger majeur. C'est là toute la nuance et cela irrite au plus haut point les défenseurs de l'environnement. Car si l'agence avait classé le produit cancérogène, il aurait été sorti du marché. C'est pour eux une occasion manquée. Et pourtant, l'an dernier, en France, l'INSERM avait clairement établi un lien de cause à effet entre l'utilisation de ce produit et l'apparition de certains cancers du sang. Xavier Coumoul est toxicologue à l'Université de Paris. Pour lui, ce lien est moyen, sans doute pas assez fort aux yeux de l'agence.
Compte tenu de l'exposition qui est très forte, il est quand même un petit peu à anticiper qu'il puisse y avoir des effets sur la santé des populations du fait de l'exposition au glyphosate. Beaucoup d'études ont été faites sur le cancer, sur l'apparition des cancers. Il est fort à penser que des gens développeront des cancers du fait de l'exposition au glyphosate, mais peut-être pas de manière aussi importante qu'on ne l'aurait avec le tabac, l'arsenic, enfin des cancérogènes qui sont très avérés et pour lesquels les expositions sont bien documentées aussi.
Et pour ce toxicologue, d'autres études sont nécessaires pour évaluer les dangers du glyphosate et pas seulement sur l'apparition de cancers. Bruxelles attend de son côté juillet 2023 pour connaître l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments concernant tous les risques possibles pour les animaux, les humains et l'environnement. L'Europe pourra alors décider d'interdire le glyphosate ou de le laisser sur le marché. Le feuilleton n'est pas fini. Les ONG préviennent déjà qu'elles saisiront les tribunaux en cas de réautorisation de l'herbicide.
Et en France, donc, l'objectif fixé par le gouvernement, c'est de sortir dès que possible du glyphosate. En principe, il doit être interdit l'année prochaine, mais des organisations agricoles s'y opposent en affirmant qu'il n'y a pas de produit alternatif.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duville.
La ville est très largement détruite. Il faut rester dans les abris, préparer des masques trempés dans une solution à la soude. C'est le message du gouverneur de la région de Lugansk, celle de la ville de Severodonetsk, objet des combats les plus acharnés du moment. Dans la guerre en Ukraine, une frappe russe a touché le réservoir d'acide nitrique d'une usine chimique. Récit de source ukrainienne, les Russes consolident leur position dans le centre-ville, reconnaît encore le gouverneur. C'est dans ce contexte, alors que la concentration des attaques russes dans l'Est met l'armée ukrainienne en difficulté, que Joe Biden annonce une nouvelle aide militaire américaine, des systèmes de missiles et munitions plus avancés, plus précis. Il s'agit notamment de lance-roquettes multiples montées sur des blindés légers, système baptisé HIMARS, porté de 80 km. Plus de détails avec l'expert militaire Pierre Servan.
C'est un blindé léger qui peut tirer 6 missiles d'un coup et qui permet une très grande cadence de tir. Donc ça donne une grande précision à 80-90 km. Et compte tenu de la possibilité de mettre plusieurs blindés côte à côte et de tirer par salve, ça permet de saturer une zone entière et de vraiment créer à la fois un effet de destruction important et un effet de terreur, un effet psychologique sur les combattants. Et donc les Ukrainiens pourraient faire des feux de contre-batterie sur les batteries russes, voire frapper également les Russes au moment où ils essaieront à nouveau de franchir dans le Donbass la rivière Donetsk. Ça donne une puissance de feu assez importante et surtout ça donne une certaine allonge, même si encore une fois numériquement les Russes sont c'est un facteur de 1 à 10 aujourd'hui en termes de bouche à feu, comme on disait dans les temps anciens.
Un propos recueilli par Omar Waman. Parmi les nombreux effets en chaîne provoqués par ce conflit, au Danemark aujourd'hui, les électeurs sont appelés à se prononcer sur la participation de leur pays à la politique de défense de l'Union européenne. Il est en dehors pour l'instant. Le oui est favori, mais l'abstention dans ce référendum devrait être forte. Et nous sommes dans un pays qui a souvent dit non aux référendums européens, le traité de Maastricht il y a 30 ans en premier lieu. Alors sur la consultation de ce jour, Marie-Pierre Véraud a interrogé la journaliste Frédérique Ingemann. Elle travaille à la télévision danoise. Elle est spécialiste des questions européennes.
La guerre en Ukraine a totalement changé la donne. D'un jour à l'autre, on nous a expliqué la nécessité de participer pleinement à la domaine de la défense en Europe parce que le monde est devenu si incertain qu'il y a la guerre sur le continent européen, que la Russie maintenant est vraiment considérée comme un ennemi et qu'on a cette incertitude par rapport à ce qui se passera aux États-Unis. On a vu Trump qui s'est tout de suite retiré de toutes les coopérations internationales et au Danemark, on craint que les États-Unis se retireront encore plus fort de l'Europe, et bah du coup on se trouve sans protection réelle en dehors de cadre de l'OTAN où le Danemark participe évidemment pleinement, mais on pense que on a besoin aussi de l'Europe pour renforcer notre propre sécurité. En tout cas, c'est ceux qui pensent, ceux qui prônent un oui pour le référendum.
Tout reste ouvert, hein.
Tout reste ouvert dans le sens où il y a une incertitude forte par rapport à l'abstention, mais vu la situation internationale, le oui a une chance réelle de réussir au référendum.
Et les résultats sont attendus en fin de soirée. Comparé au bouleversement diplomatique provoqué par cette guerre, ou plus encore aux milliers de morts depuis la fin février, l'événement de ce soir en Écosse est secondaire. Mais quand il s'agit de la Coupe du Monde de football, le secondaire a de l'importance. L'Ukraine peut encore rêver de qualification. Il faut pour cela, dans un premier temps, battre l'Écosse ce soir à Glasgow. Parmi les plus de 6,5 millions d'Ukrainiens qui ont quitté leur pays ces trois derniers mois, certains vivent en Écosse. Agathe Mahué, vous êtes à Glasgow. Le match de ce soir leur donne du baume au cœur.
Ils ont glissé dans leur bagage un grand drapeau ukrainien qu'ils comptent bien déployer dans la tribune ce soir.
Tania
et son fils de 16 ans, Kirill, qui viennent de quitter la région de Kherson et que Marie héberge à Glasgow depuis deux jours seulement. Leur arrivée à cette date est une coïncidence, assure l'Écossaise, ravie de pouvoir les aider et surtout de leur avoir trouvé des billets.
C'est une émotion incroyable. Je suis un grand fan de football, donc ce match de l'Ukraine, c'est vraiment important pour moi.
2500 Ukrainiens environ ont obtenu leur place pour le Hampden Park, match éliminatoire pour la Coupe du Monde. Mais la tribune jaune et bleue ce soir sera surtout composée d'Ukrainiens installé au Royaume-Uni depuis des années, voire né ici, comme Stéphane, qui montre sur son portable la dernière fois qu'il a pu célébrer son équipe nationale.
Bien sûr, face à la guerre, un match de foot, ça ne représente rien. Mais le sport a ce don de guérir et de réunir les gens, de les faire communier.
Finalement, pas simple d'être supporter écossais ce soir au stade de Glasgow.
Non, pitié.
Mais on ne veut pas de pitié, conclut Mihaelo, un Ukrainien installé lui en Norvège et venu exprès à Glasgow pour le match. Les Écossais devront jouer à 100% ce soir. Pas de pitié, malgré la guerre dans notre pays.
Non, pitié. Because of war in Ukraine.
Voilà, coup d'envoi à 20h45. Le gagnant de ce soir devra battre ensuite dimanche le Pays de Galles pour pouvoir participer au Mondial cet automne au Qatar. C'est un travail difficile, délicat, pénible. 6 mois après la remise du rapport Sauvé sur les abus et agressions sexuelles au sein de l'Église, l'instance de réparation précise aujourd'hui comment elle compte indemniser les victimes qui en font la demande. Faustine Calmel, vous êtes en direct avec nous. Il y a des critères, un barème qui aboutiront à des réparations de 60 000 euros maximum.
Et pour déterminer combien chaque victime peut toucher, l'instance a établi 3 axes. La gravité des faits de violence sexuelle, les manquements de l'Église dans la prise en compte de la parole des victimes et les conséquences sur leur santé. Pour chaque axe, 10 niveaux de gradation. Pour les faits, par exemple, niveau 1, exhibition sexuelle ou partage d'images pornographiques. Niveau 5, viol unique. Niveau 10, viol multiple pendant plus de 5 ans. Pour les conséquences, niveau 1, perturbation seulement au moment des faits. Niveau 10, hospitalisation ou invalidité reconnue sans amélioration. À chacun de ces niveaux correspond un montant et en croisant les barèmes, l'instance détermine la réparation financière. Pour sa présidente Marie Derain de Vaucresson, cela permet de répondre au mieux à chaque situation individuelle.
L'exercice, c'est de réussir à objectiver à partir des personnes et donc de considérer, notamment sur les conséquences de la vie des personnes, que tout ne peut pas être au même niveau. Et si on s'était arrêté à la gravité des faits, par exemple, nous n'aurions pas été dans la justice, la justesse et l'équité des réponses que nous devons apporter.
Et l'instance de reconnaissance et de réparation a reçu 736 demandes à ce jour. Les 10 premières ont été traitées, seront transmises la semaine prochaine au fonds de dotation. Les premiers virements devraient intervenir à la fin de ce mois de juin.
Faustine Calmel avec Julien Girard pour France Inter. Le rapport Sauvé avait établi que 330 000 enfants et adolescents ont été victimes d'abus ou d'agressions sexuelles au sein des institutions de l'Église de la part de religieux ou de laïcs entre les années 50 et aujourd'hui. Alors que les producteurs de lait font partie des éleveurs très touchés par la hausse des prix, l'énergie, l'alimentation des animaux, voici une piste pour augmenter la production laitière, améliorer la rentabilité des exploitations. L'intelligence artificielle peut aider. Mariam El Kurdi nous emmène à Arzal, dans le Morbihan, dans une ferme qui expérimente depuis 6 mois un outil mis au point par une jeune entreprise nantaise. L'objectif est d'améliorer le bien-être des vaches, ce qui est une clé pour qu'elles donnent plus de lait.
C'est une étable de 250 vaches laitières blanches à taches noires que nous fait visiter Benoît Toutblanc, salarié de la ferme depuis 1 an.
Tous les jours, je fais un tour. Mon quotidien, c'est ça, c'est de voir si tout le monde est en bonne santé.
Et pour compléter le regard de l'éleveur, des caméras de vidéosurveillance filment les vaches 24 heures sur 24, images analysées ensuite par un ordinateur installé dans un bureau de la ferme.
On développe les algorithmes, et c'est les éleveurs qui ont accès aux algorithmes. Et eux, ils ont la vision à 360 de leur ferme, du coup, à chaque animal qui est reconnu.
Technologie basée sur l'intelligence artificielle développée et commercialisée par la start-up nantaise iHerd, Quentin Garnier, son président.
On va être capable de voir des modifications comportementales liées par exemple à une douleur. On va avoir une vache qui dandine parce qu'elle a mal à un pied et qu'elle compense. Une vache qui est malade va passer plus de temps couchée. On est capable de connaître à chaque instant la santé de chaque animal dans l'étable. Et ça, ça permet de faire des gains de production.
Car une vache qui va bien, c'est une vache qui produit plus de lait. Bruno Kahl, gérant de la ferme, attend beaucoup de ce nouveau système.
Si on peut prolonger la vie de l'animal avec une lactation et demie de plus que ce qui se fait aujourd'hui chez nous, mais de manière générale dans les élevages. Les vaches, elles auront fait carrière, entre guillemets, un petit peu plus longtemps, mais c'est aussi plus de rentabilité.
Coût de l'installation, 40 euros par vache par an. Promesse de la start-up nantaise, augmenter la production laitière de l'ordre de 15%.
180 heures de travail d'intérêt général pour avoir maltraité son chat. Voilà la condamnation en Angleterre pour le joueur international de football Kurt Zouma. Condamnation annoncée ce matin. Nous en venons à la sélection cinéma de la semaine. Et aujourd'hui, c'est avec vous. Bonjour Cyril Ardo.
Bonjour Bruno.
Alors, vous nous proposez successivement La recette pour faire un grand film, une purée de poivrons pour s'émanciper et un documentaire au plus près de la reine d'Angleterre. Ça, c'est du teasing. D'abord, donc, la recette avec compétition officielle, c'est un film argentino-espagnol.
Oui, avec ce nom, on ne sait pas si les deux réalisateurs, Marianne Ocon et Gaston Duprat, ont voulu faire passer un message aux programmateurs des festivals. Ce film, c'est l'histoire d'un millionnaire patron dans l'industrie pharmaceutique qui, à l'aube de ses 80 ans, veut laisser une trace de son passage sur Terre. Il a donc une idée.
Financiar una película con los mejores.
Son los actores ideales para esto. Iván Torres y Félix Rivero.
Financer un film avec les meilleurs acteurs pour ceux qui, comme moi, n'ont pas fait Espagnol LV2. Sauf que la meilleure réalisatrice jouée par Penélope Cruz et les meilleurs comédiens, Antonio Banderas et l'Argentin Oscar Martinez, sont des égos surdimensionnés. Ils se méprisent les uns les autres. Et puis, il y a aussi les méthodes très discutables de la cinéaste, comme quand elle fait répéter ses comédiens sous un énorme bloc de pierre suspendu pour créer de la tension. C'est souvent très amusant. Et vous l'aurez compris, c'est en filigrane une critique de l'industrie du cinéma et du show business.
Et ça s'appelle compétition officielle. Recette culinaire, désormais, c'est dans le film La Ruche qui se passe au Kosovo, Cyril.
Le film nous plonge dans un petit village kosovar peu après la guerre qui s'est terminée en 1999. Faridje espère le retour de son mari, mais elle doit aussi subvenir aux besoins de sa famille. Avec d'autres femmes, elle monte une petite entreprise d'ajvar, une purée de poivrons très populaire là-bas. Leur recette a du succès, mais dans ce village traditionnel, une femme chef d'entreprise, eh bien c'est très mal vu. Tentent de leur mettre des bâtons dans les roues, vitres de voitures cassées, intimidation, saccage de leur production. C'est un récit touchant de femmes fortes, résilientes, qui cherchent à s'émanciper. Et pour ce film, la réalisatrice kosovare Blerta Bacholi, dont c'est le 4e long métrage, s'inspire d'une histoire vraie, car Faridje existe vraiment et son entreprise d'ajvar fonctionne très bien puisqu'elle exporte jusqu'en Suisse.
Et le film s'appelle La Ruche. Allez, pour terminer, c'est d'actualité un documentaire sur la reine d'Angleterre.
Mais ce n'est pas le premier et ce n'est sans doute pas le dernier, mais Elisabeth Regard singulier a de ça d'original qu'il n'est composé que d'images d'archives.
God save the Queen.
Ow, it's my foot you're standing on.
Ladies and gentlemen, I want to tell you all,
throughout the ages, it will not be easy.
Le film est signé Roger Mitchell, que l'on connaît notamment pour coup de foudre à Notting Hill, et qui nous a quittés en septembre dernier. Les fans de la couronne britannique seront sans doute comblés. On y découvre des images inédites qui retracent les épisodes marquants du règne d'Elisabeth II. Il y a des moments touchants et amusants, comme quand la reine explique qu'une couronne, c'est lourd à porter. Mais 70 ans sur le trône, c'est long, et ce film manque de repères temporels. Coup de foudre en revanche pour la bande son, avec des musiques des Beatles, de Robbie Williams ou encore de Madness que l'on entend derrière moi.
Oui.
Et si vous voulez voir ce film, il ne faut pas le rater. Il est diffusé demain soir en live dans les cinémas Pathé à l'occasion du jubilé. Séance de rattrapage le 5 juin.
Et oui, la reine d'Angleterre est aussi un personnage de la pop culture. Merci beaucoup Cyril Ardaud. On a commencé ce journal en parlant indirectement football lors du compte-rendu du Conseil des ministres. Terminons-le avec du tennis, quand le sport pose des questions qui vont au-delà des compétitions. L'accès aux grands matchs doit-il être réservé à ceux qui veillent très tard le soir pour regarder les plateformes audiovisuelles et non la télévision classique? Il fallait veiller jusqu'à 1h30 la nuit dernière pour voir Nadal battre Djokovic. Est-ce que ça pose des problèmes de programmation? La directrice de Roland-Garros, Amélie Mauresmo, répond.
C'est pas simple. On sait que Roland-Garros maintenant finira de toute façon plus tard que historiquement, où c'était la nuit qui mettait fin à tout ça, quoi. Moi personnellement, pour le coup, les sessions de soirée, quand vous êtes dans le stade, pour moi l'intérêt il est évident. C'était plein tous les soirs. Tous les autres matchs, c'est vrai qu'ils n'ont pas été très longs. Il y avait du monde et les gens, je pense, il y avait un vrai enthousiasme de pouvoir justement travailler la journée et voilà, avoir une bouffée d'oxygène en fin de journée, en soirée, parfois tard. Les téléspectateurs, ça j'ai moins de recul parce que pour le coup, mais ce que je peux voir quand même, c'est qu'il y a un certain nombre, moi, de retours que j'ai, de gens qui me disent c'est top parce que moi je bosse, j'entends, hein, je suis pas en train de défendre coûte que coûte ces sessions de soirée, mais à mon sens, il y a un vrai intérêt, tant sur place que devant sa télé, pour un grand nombre de personnes, de pouvoir suivre le tennis après le boulot, quoi, en fait.
Propos recueillis par Jean-Pierre Blimeau, le choc du soir en soirée, donc à partir de 20h45, ce sera le dernier quart de finale chez les hommes, Rude contre Rune, les deux joueurs venus du Nord, l'un de Norvège, l'autre de Danemark. Au programme aujourd'hui à Roland-Garros, également Rublev Cilic, et chez les filles, Swiatek Pegula et Kuder Metova contre Kazatkina, ce sont deux Russes. Encore un mot du football pour vous dire que Paul Pogba ne ne jouera plus à Manchester United l'année prochaine. Le club annonce que son contrat ne sera pas renouvelé. Où jouera-t-il? On n'a toujours pas la réponse. La météo dans un instant.
L'auditorium de Radio France présente le vendredi 17 juin à 20h le deuxième concerto pour piano de Shostakovich sous les doigts du stupéfiant virtuose Alexandre Kantorov. Avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France et Nico Franck qui interpréteront le Don Juan de Richard Strauss et Iberia de Claude Debussy. Entrez au cœur du concert. Réservation maison de la radio et de la musique.fr.
Partez à la découverte du monde avec Fabien Toulmé. L'auteur de l'Odyssée d'Hakim est allé à la rencontre de celles et ceux qui luttent partout sur notre planète pour connaître leur parcours, leur motivation et témoigner de trois résistances populaires. Les Reflets du Monde, le nouveau roman graphique de Fabien Toulmé, est disponible aux éditions Delcourt.
France Inter aime
Étonnant Voyageur, du 4 au 6 juin à Saint-Malo. Que peut la littérature face au chaos? Andrei Kourkov, invité d'honneur, et 150 écrivains seront réunis pour imaginer demain et réenchanter le monde. Plus de 200 rencontres, lectures, projections de films, des expositions et un salon du livre pour des retrouvailles entre le public et les auteurs, réalisateurs, musiciens. Étonnant Voyageur, du 4 au 6 juin, rendez-vous à Saint-Malo. Un événement France Inter.
Le temps de ce jour.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, Euromaster est partout au service de votre sécurité.
Bonjour Jean-Pierre Hameau.
Bonjour Bruno.
Des pluies orageuses dans le centre-est cet après-midi.
Oui, nous allons retrouver une large bande de pluies orageuses cet après-midi entre l'Auvergne et le nord des Alpes, en passant par le Lyonnais, le Mâconnais et le sud du Jura. Puis dans les autres régions, le temps restera sec et souvent bien ensoleillé. Prévoyez tout de même quelques passages nuageux vers les Hauts-de-France, apportant très localement une petite ondée. Puis côté température, les maximales évolueront entre 19 et 25 degrés dans la moitié nord, avec 19 à Lille et Brest, 22 à Rennes, 23 dans la capitale, 24 à Tours et 25 à Nantes. Et puis dans le sud-ouest et le sud, le mercure affichera 25 à 33 degrés, comptez 25 à Montpellier, 27 à Lyon, 29 à Bordeaux, 30 à Tarbes, 32 à Toulouse, on ira jusqu'à 33 à Montauban. Et puis ce soir, on suivra l'arrivée d'une nouvelle salve orageuse intéressant le sud-ouest et gagnant dans la nuit le massif central.
Jean-Pierre Hameau, Météo France.
France Inter. Le 13-14. Bruno Duvier.
Ce changement est bien plus fort que ce qui est annoncé. Pour une fois, on a une loi qui prouve aux financiers qu'ils n'ont pas toute puissance sur l'emprunteur. J'ai à l'époque détourné la loi pour pouvoir emprunter, ou encore j'ai eu un accident de voiture, aucun problème de santé, mais quand j'ai voulu faire un prêt, j'ai eu une surprise énorme. C'est bien de penser aux gens qui ont le cancer, mais on ne pense pas aux autres cas. Voilà quelques-uns des très nombreux messages que nous avons déjà reçus à propos de notre sujet du jour. Bonjour Céline Lys-Raoux.
Bonjour.
Vous êtes l'ancienne présidente de Rose Up qui se bat depuis des années pour le droit à l'oubli, oublier qu'on a été malade, pouvoir emprunter, pouvoir contracter un crédit immobilier. Quoi de neuf aujourd'hui et en quoi est-ce important?
Alors en fait, il y a deux dispositifs aujourd'hui qui apparaissent. Le premier, c'est le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli, on a créé à Rose Up cette idée il y a 10 ans, ex nihilo. L'idée était de dire qu'au bout d'un certain moment, les malades de cancer peuvent considérer qu'ils sont guéris. Dès lors qu'ils sont guéris, ils ont le droit de ne plus surpayer des primes d'assurance. Ouais. Ce droit à l'oubli, en 2016, on l'a bloqué. On va dire c'était une ligne de front de discussion. On l'a bloqué avec le gouvernement de l'époque à 10 ans. Auparavant, c'était 20 ans. Ouais. Et avec la nouvelle loi, ça arrive à 5 ans. Ouais. Ça veut dire qu'un malade de cancer ou d'hépatite a le droit, au bout de 5 ans après la fin des traitements lourds j'entends, après la fin des traitements, a le droit, quand son assureur lui pose la question « Avez-vous été en ALD ?» C'est la question que vous posez tout le temps.
Affection longue durée.
Voilà. De dire non, je n'ai pas été en ALD. En fait, c'est le droit à l'oubli, c'est le droit de remettre tout simplement le niveau à zéro. On efface tout et on recommence. Et puis il y a un deuxième dispositif qu'on a également fait passer par la loi Lemoine. Oui. Le dispositif, c'est pour tous les assurés, malades, pas malades, le monsieur qui parlait de son accident de voiture. Oui. Aujourd'hui, on a obtenu la suppression du questionnaire de santé jusqu'à 200 000 euros par quotité, c'est-à-dire par personne, ça fait 400 000 euros par un couple. À partir d'aujourd'hui, l'assureur ne vous demandera plus, il n'y aura plus tout simplement ce questionnaire de santé jusqu'à 400 000 euros ou 200 000 euros par personne.
Alors voilà pour le principe général, le diable se niche dans les détails et il y a beaucoup de questions. D'abord celle de Sophie. Bonjour Sophie.
Bonjour. Moi, j'avais une question à propos du cancer du sein, les traitements. Après le traitement curatif, il y a un traitement préventif. Et moi, on m'avait dit, quand j'ai eu mon cancer, ça durera 5 ans. Et puis après, on m'a dit que ça va durer 8 ans. Et ce que vous dites sur le droit à l'oubli et le traitement lourd, moi, je ne l'ai pas vu dans le texte lourd. Donc, je pense qu'il y a une double peine si on accepte d'avoir un traitement préventif pour éviter une rechute.
Oui.
Et ben, on est toujours sous traitement.
Céline Lisraoux, qu'est-ce qu'on peut répondre à Sophie? Voilà, les traitements lourds, ça veut dire quoi?
Alors, Sophie, en fait, les traitements lourds, alors vous l'avez pas vu dans cette nouvelle loi, parce que cette nouvelle loi, c'est une extension de la loi précédente,
oui.
Mais c'est bien écrit dans la loi précédente, donc c'est la loi précédente qui fait foi sur les déterminants. Les traitements lourds, ce sont l'opération de cancérologie, donc quand vous enlevez votre cancer du sein, la radiothérapie et la chimiothérapie, et vous parlez-vous de l'hormonothérapie? L'hormonothérapie n'en fait pas partie, et les reconstructions non plus. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre opération, votre chimio et votre radiothérapie, en général, ce sont des parcours entre, on va dire, 4 et 8 mois.
Oui.
Une fois que vous avez fini ça, l'hormonothérapie n'entre pas en ligne de compte. On s'est bien battu il y a déjà 7 ans pour le premier droit à l'oubli avec les assureurs en disant, voilà, l'hormonothérapie, c'est un traitement de la non-récidive, c'est pour éviter la récidive, c'est pas curatif, donc voilà. Et pareil pour les reconstructions. Si vous voulez vous faire reconstruire genre 10 ans après votre opération, ça en fait pas partie. Donc, je vous confirme, dès que vous avez fini votre chimio ou votre radiothérapie, vous avez le droit de commencer le zéro du droit à l'oubli.
Et pour reprendre l'expression que vous utilisiez tout à l'heure, répondre non à l'emprunteur, à l'assureur quand il vous pose la question.
Ça c'était l'enjeu vraiment principal de ce droit à l'oubli. On a été les premiers en France à créer cette idée-là.
Oui.
Maintenant, les Belges l'ont repris, mais on était les premiers au monde, cocorico. Tout simplement, c'était de dire, voilà, l'assureur n'a pas besoin d'avoir cette information. Parce que d'une manière ou d'une autre, s'il a cette information, il va vous faire surpayer d'une manière ou d'une autre. Donc, il ne faut plus lui dire, tout simplement.
Alors, j'espère que je ne vous piège pas. On rentre dans la grande précision. Question de Béatrice Annecy. Est-ce que les changements fonctionnent pour les prêts en devise et pour les rachats de prêts?
Alors, les prêts en devise, je n'en sais rien.
Ouais.
Et les rachats de prêts, très probablement. C'est-à-dire que aujourd'hui, cette loi vient parallèlement à une autre loi. C'est-à-dire que vous avez le droit, tous les ans, de changer d'assurance emprunteur.
Oui.
Donc, dès lors que vous avez besoin d'assurer votre prêt, vous pouvez recommencer ex nihilo avec une nouvelle assurance sans avoir de surprime.
Mmh.
Donc, théoriquement, oui.
Alors, quelles autres maladies concernées par le droit à l'oubli? Question d'Eva au standard. Bonjour, Eva.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Alors, je vous appelle en fait. Donc, je suis en situation de handicap,
oui.
Et une pathologie invalidante, quoi, enfin pour jusqu'à la fin. Et
oui.
Et ma question en fait, c'était justement donc là les prêts pour l'immobilier vont concerner, enfin vont être les questionnaires de santé vont être allégés pour les personnes atteintes ayant connu le cancer ou l'hépatite C.
Oui.
Mais du coup, qu'en est-il, le handicap étant un domaine riche et varié, et bien qu'en est-il pour les autres en fait?
Céline Lisraoux.
Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait il y a deux dispositifs. Donc il y a un dispositif qui est ouvert aux malades de cancer,
oui.
Donc le droit à l'oubli, et un dispositif de suppression du questionnaire de santé qui fonctionne jusqu'à 200 000 euros par personne, donc 400 000 si vous empruntez en couple. Alors on est consciente que c'est pas assez.
Oui.
En fait c'est vraiment une ligne de crête de négociation. J'espère que dans les années à venir on pourra aller plus loin. La réalité c'est qu'aujourd'hui quand vous allez vous en tant que personne en situation de handicap remplir votre questionnaire de santé, vous n'allez plus en remplir jusqu'à 200 000 euros. Donc il y a carrément plus de questionnaire.
C'est ça.
Donc que vous soyez en situation de handicap ou pas, finalement ça ne change rien parce que l'assureur ne le saura pas.
Alors ça c'est le questionnaire, mais il y a beaucoup de questions sur droit à l'oubli. Alors je vois bien la logique, quand on souffre d'une maladie chronique, par définition, c'est ce que nous disait cette auditrice à l'instant, ça ne s'arrête pas. Y a-t-il des maladies pour lesquelles vous battez encore pour un droit à l'oubli, pour lequel ça n'est pas acquis?
La difficulté, c'est que le droit à l'oubli ne fonctionne qu'à partir du moment où vous avez fini vos traitements.
Oui.
Et nous, on avait commencé sur ce long combat sur le droit à l'oubli, et on a eu assez vite des malades de cancer métastatique métastatiques, oui, qui sont venus nous voir en nous disant « Mais moi, toute ma vie, je serai en traitement. J'ai un cancer métastatique. » Aujourd'hui, vous pouvez vivre des années avec un cancer métastatique. Oui. Et la médecine avance beaucoup plus vite que n'avance la société et surtout le monde de l'assurance. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé parallèlement sur un deuxième dispositif carrément de suppression. Voilà. Mmh. Pour que toutes ces personnes qui ont des maladies chroniques, je pense aux malades qui sont porteurs de HIV, les séropositifs, les diabétiques, tous ces gens-là puissent aussi avoir accès à l'assurance.
Monique au standard. Bonjour Monique.
Oui, bonjour.
C'est à vous, nous vous écoutons.
Oui, bonjour. Mon fils a 40 ans. Il vient de contracter, il y a 3 mois, un prêt qui lui a été refusé au prétexte qu'il est diagnostiqué enfant ostéogenèse imparfaite, c'est-à-dire qu'il a les os qui se cassaient, mais il y a plus de 20 ans maintenant qu'il n'a eu aucune fracture, et je voulais savoir si on pouvait envisager une renégociation. Il n'est absolument pas reconnu handicapé, et voilà.
Merci pour votre question, Céline Listraux. Pour élargir au fond, quelle voie de recours possible quand on vous refuse un prêt en avançant des raisons de santé? Et je veux pas faire l'impasse sur la question de Monique.
Alors, Monique, votre fils, pour répondre d'abord à la question de Monique, votre fils, finalement, il suffit aujourd'hui qu'il aille emprunter de l'argent, l'assurer, et sans dire qu'il a eu cette maladie des os, puisque aujourd'hui, une fois de plus, il n'y a plus de questionnaire. Donc, s'il n'y a plus de questionnaire, il ne le dira plus. Ensuite, il y a l'autorité prudentielle, une autorité prudentielle de l'assurance qui existe depuis de la Convention Bellorgé, c'est-à-dire il y a un peu plus de 25 ans, qui fait que vous pouvez effectivement vous retourner contre cette vers cette autorité prudentielle en disant « on m'a refusé un prêt, c'est complètement inadmissible, voilà ». Alors, je vous cache pas que c'est long, c'est compliqué et très très peu d'assurés. Au gain de cause, je ne sais pas, mais tente tout simplement parce que c'est assez assez complexe. Et c'est bien pour ça qu'on est allé vers ce deuxième dispositif de suppression pour que les gens aient, alors une fois de plus, 400 000 euros, c'est pas tout à fait assez, mais aient accès quand même à l'emprunt.
Une précision sur ces 400 000 euros, donc 2 fois 200 000 dans un couple, il y a une limite d'âge.
60 ans.
60 ans, la limite d'âge. Un mot quand même pour s'arrêter sur ce changement, je dirais psychologique. Qu'est-ce qu'il dit au fond? Je vois Olivier, je ne sais pas s'il est au standard. Il est avec nous, Olivier, ou pas? Oui, tiens. Olivier, on va vous écouter. Je voulais prendre vos propos dans ma voix parce que le temps arrive bientôt à échéance, mais on a le temps de vous écouter. Allez-y.
Oui, bonjour. Moi, je suis qui? Je suis tellement heureux que cette loi soit passée parce que si on se décale un peu, c'est une avancée non pas sociale, mais civilisationnelle. C'est-à-dire que c'est, pour une fois, il y a une loi qui suit le progrès technique, qui suit la science, qui rentre pas dans les idées reçues, qui rentre pas dans les fantasmes collectifs, mais réellement qui annonce, elle est pleine d'espoir, parce que elle annonce simplement ce que savent les Suédois, par exemple, depuis 10 ans, parce que ça se fait, que la moitié des cancers se guérissent, et que un autre quart, comme vous l'avez cité tout à l'heure, est géré comme une maladie chronique. Mmh. C'est un immense espoir, donc, il est temps qu'une loi colle un peu aux avancées scientifiques. Et puis dans un deuxième chapitre, une loi qui va border des financiers, parce que les assurances sont aussi des financiers, qui va border des financiers face à des gens fragiles. On n'est pas fragile uniquement de la santé, on est fragile parce qu'on a besoin d'argent. Eh ben c'est formidable, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment une loi qui annonce quelque chose d'extrêmement lumineux, quoi. Et puis ça fait du bien.
Merci Olivier, voilà pour les propos du psy Céline Listraux. Avancée de civilisation, dit-il, on s'est peut-être pas arrêté là-dessus, c'est aussi le regard sur les malades, le regard sur la maladie et les progrès de la science qui sont en marche avec ce changement.
En fait, je dis en général que c'est une utopie. Oui. Et quand j'ai lancé et créé Ex Nihilo, cette idée de droit à l'oubli, en même temps que le magazine Rose Magazine, donc destiné aux malades de cancer, on m'a dit mais c'est complètement utopique ton propos. Et je disais en fait l'utopie, c'est au cœur de notre démocratie. Et la démocratie, c'est une utopie avant d'être un exercice. C'est-à-dire que si on n'a pas des utopies qui nous portent, il n'y a pas d'avancée sociale. Et à un moment, je me suis retrouvée face à un lobby assez puissant, celui des assureurs, qui nous a a regardé un petit peu d'eau en disant, mais c'est quoi, nous on est toutes journalistes hein, dans l'association, à l'origine c'est quoi ces journalistes, elles y connaissent rien, c'est vrai, on s'est formé sur le tas, mais en fait c'était une juste cause, et comme le disait Olivier très bien, c'est juste moralement, mais c'est juste économiquement aussi, et l'un porte l'autre, c'est-à-dire que faire surpayer jusqu'à 100% de primes d'assurance, 100%, c'était très commun, hein, ça n'avait rien d'exceptionnel, des gens qui n'ont pas de surrisque, c'était inadmissible. Donc effectivement, on a porté cette utopie, et cette utopie, ce qui est très intéressant, c'est que je disais tout à l'heure, nos amis belges ont repris notre loi, mais aujourd'hui on en parle au niveau européen, donc ça va peut-être devenir une loi européenne qui va changer la vie de centaines de millions de gens, de milliers, pardon.
Merci, merci beaucoup Céline Rissraux d'avoir répondu à nos questions et d'être venue dans les studios de France Inter, 13h44.
France Inter, le 13-14.
Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno Duvic.
Le vif de l'histoire dans 10 minutes, quel est le programme, une figure de diplomate?
Oui, et c'est sous son pavillon que s'abritent les grévistes du Quai d'Orsay, parce que demain il y a grève au Quai d'Orsay.
Ce qui est assez inédit, c'est la deuxième fois de l'histoire du Quai, me semble-t-il. Le feuilleton Tanguy Viel avec Eva Bétan aujourd'hui, ce sont les auteurs en lice pour le prix du Livre Inter, et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
En ce 1er juin, nous célébrons la journée mondiale de la course à pied. Mais oui, à cette occasion, vous avez rencontré une experte en la matière, Sylvaine Cusseau.
Et c'est l'une des meilleures spécialistes françaises de l'ultra-trail. L'ultra-trail étant une compétition en milieu naturel sur une distance supérieure à 80 km en montagne, souvent. Ce sont de grands athlètes, les sportifs qui peuvent courir comme ça des dizaines d'heures, 10 heures, 20 heures, 30 heures d'affilée. En l'occurrence, Sylvaine Cusseau s'entraîne depuis toute petite.
J'ai commencé, j'avais 6-7 ans, j'ai pris une première licence d'athlétisme à 10 ans et je me suis jamais arrêtée. Voilà, aujourd'hui, ça fait partie intégrante de ma vie. Je vais courir comme je me brosse les dents un peu, hein, c'est un peu ça. Donc c'est intégré dans ma vie, j'y suis allée ce matin avant de venir et comme tous les coureurs, c'est devenu une drogue en fait. Hein. Ça me provoque un bien-être.
Est-ce que vous écoutez de la musique quand vous courez?
Ouais, ça m'arrive. Quand j'ai des coups de moins bien, la musique, elle me redonne un bon coup de peps. Parfois même, je chante quand je cours. Ou je fredonne.
On peut fredonner en courant?
Oui, on peut. Quand on n'est pas en sprint. En ultra trail, on n'est jamais en sprint.
Faut que j'envoie ces lettres. Faut que je rappelle mon père d'abord. Faut que je prévoie cette fête que j'ai promis de faire pour le disque d'or. Faut que je pense à l'été. Trouver des colos pour les gamins, demander quand est-ce que je les ai, et puis pour qu'ils voient leurs cousins, faut que je sache ce que mes sœurs ont prévu, elles vont me dire qu'elles me l'ont déjà dit, je vais répondre oui mais que je sais plus, puis faudra que je pense à samedi, j'aimerais les emmener à la mer, loin de ces humeurs grisâtres, et dimanche on ira voir mon père, on regardera le match tous les quatre, pour ça faut que je l'appelle d'abord lui, puis cette fille à qui j'avais promis, déjà il y a 5 jours que demain, je la contacterai c'est certain, et que je lui donnerai mon avis, sur ce truc là qu'elle a sorti, un podcast sur les interdits, que j'ai trouvé d'ailleurs très bien. Et puis il faut que je poste un beau contenu, je sais pas, un truc nouveau. Et vu le temps que je passe dessus, beaucoup trop peu pour que ce soit beau. Ça va être nul et le pire, c'est que je vais réussir à trouver un autre que moi, à qui en vouloir pour ça.
Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher. J'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire, je vais me relever.
Et c'est Ben Mazoué qui a donc choisi de nous faire écouter Sylvaine Cusseau, Frédéric.
Avec Quand je marche, le tout premier single de son album Paradis, sorti en 2020.
C'est un chanteur que j'ai découvert il y a un an et demi. Par hasard, j'ai écouté une de ses musiques et en l'occurrence, il parle beaucoup de rupture parce que c'est pour ça qu'il écrit son album. Et moi, il s'est trouvé qu'à ce moment-là, je venais de me séparer aussi. Donc voilà, je me suis retrouvée aussi un peu dans tout ça. Et je me retrouve beaucoup dans cette chanson où il parle justement de l'intérêt de marcher, de courir pour chasser des mauvais esprits, des pensées qui se bousculent de partout. Et c'est vrai que courir et être dehors, marcher, faire de l'activité, ça permet de faire beaucoup de tri dans sa tête. Et c'est ce que je ressens beaucoup en course, en fait. Parce que voilà, il y a ce bienfait du sport et de la course à pied qui est de s'évader. C'est un peu le temps qui s'arrête, de se retrouver, quoi. Voilà. C'est créatif, je pense, de courir.
Avancer, se rassembler, s'enflancher, enjamber le chantier des pensées qui semblait emmêlé. Je m'y collais sans délai, mais souvent.
prenez-les. Et l'angoisse, tenez-la bien. Je vais shooter dedans comme elle vient. Faut que je marche, parce que je comprends quand je marche. Faut que je marche, parce que j'apprends quand je marche. Faut que je marche, parce que je pense quand je marche. Parce que j'avance quand je marche. Parce que je rêve quand je marche.
Ben Mezvi, vous ne l'écoutez pas seulement en courant?
Non, dans le train, par exemple. Ça m'arrive aussi.
Et sa chanson, Quand je marche, elle est parfaite pour courir.
Elle est parfaite, ouais. On sent qu'il la vit, sa chanson. Du coup, quand on court et qu'on l'entend mettre autant de cœur dans ses paroles, c'est motivant. Parce qu'en fait, on a l'impression d'avancer, de marcher avec lui. Et ça fait du bien, simplement.
Quand je marche, de Ben Mazoué. C'était donc, Frédéric, le choix de l'athlète Sylvaine Cusseau.
Dont le prochain défi sera la Diagonale des Fous sur l'île de la Réunion, où elle vit désormais, comme Ben Mazoué d'ailleurs. Une course de 166 km avec 10 000 mètres de dénivelé, ce sera fin octobre.
Et vous allez la faire avec elle, évidemment.
Bien sûr.
À demain, Frédéric Pommier. Tanguy Viel, avec Eva Bétan, c'est la suite de notre feuilleton avec les auteurs en lice pour le prix du livre Inter. Le livre s'appelle La fille qu'on appelle, c'est aux éditions de Minuit. Court roman, 170 pages qui résonnent avec l'époque, la libération de la parole des femmes, le mouvement MeToo. Eva, quelques mots de l'intrigue et question à Tanguy Viel.
Elle n'est pas la victime parfaite, lui dira son avocate. D'ailleurs, les policiers qui recueillent sa plainte ne sont pas loin de trouver que dans la manière qu'elle a de raconter, elle ne se rend pas vraiment service. Un service, c'est d'ailleurs comme ça que tout a commencé. Elle en a demandé un au maire, elle est la fille de son chauffeur, lui trouver un logement. Et il s'attend à quelques faveurs, on a failli dire normal. Et Laura de raconter les glissements successifs, une main qui s'attarde. Il aurait fallu dire non, mais on n'a pas osé, on n'a pas pu pire, on a pensé que c'était ce qu'on devait faire. Ça pourrait être un fait divers, c'est une tragédie dans laquelle on rit parfois parce qu'on est chez Tanguy Viel. Un rire vengeur contre les notables et leurs avantages éternels. Un sourire fraternel pour les pères humiliés et les filles pauvres qui ont le malheur d'être belles. Vous en faites une histoire de pouvoir.
Ben oui, parce qu'au fond, dans ce cas-là, mais comme on peut le voir quand on regarde n'importe quel panneau publicitaire, on a le sentiment quand même que la beauté est un lieu de soumission effroyable parmi d'autres, et que le corps, surtout le corps des êtres, est vraiment objectalisé, marchandé, manipulé, en l'occurrence, cette jeune fille. Quand elle va porter plainte et se réveiller, elle va avoir un regard très distancié sur elle-même, une sorte de presque d'ironie ou de fatalisme aussi sur sa situation. Elle va pas jouer la victime parfaite, comme vous l'avez dit. Le livre est construit sur le récit de sa plainte. C'est autant que faire se peut un récit d'émancipation par la parole. En parvenant à nommer son histoire, elle a toutes les chances de retrouver une forme de souveraineté.
C'est comme si le fantôme de la prostitution rôdait autour de la beauté d'une jeune femme. Je voudrais un extrait dans les premières pages du livre. Elle commence sa déposition donc avec les policiers et elle raconte tout de suite, elle dit comment elle était habillée. Comme s'il fallait déterminer la manière dont elle est habillée. Dans la grande vitre du café, elle s'est estimée une dernière fois, certaine, dira-t-elle plus tard, qu'elle avait fait le bon choix. Cette veste en cuir noir qui laissait voir ses hanches, dessous la robe en laine un peu ajustée, le vent à peine qui en effleurait la maille quand elle tirait dessus. « Oui, a-t-elle dit au policier, ça peut vous surprendre, mais je me suis dit que j'avais fait le bon choix. Ça et les baskets blanches qu'on a toutes à 20 ans, de sorte qu'on n'aurait pas pu deviner si j'étais une étudiante ou une infirmière ou, je ne sais pas, la fille qu'on appelle. La fille qu'on appelle, a demandé l'un d'eux. Oui, c'est comme ça qu'on dit, call girl.
Quand on regarde un film de Godard des années 60, on a, vous voyez comment il traite la publicité, il considère que c'est de la prostitution, etc. Donc peut-être si moi j'ai eu le degré d'indignation ou de colère suffisant pour le faire naître, c'est parce que ce récit s'est fait jour, depuis maintenant 10-15 ans, dans les médias, et qu'il y a quand même une véritable émancipation de la parole féminine et donc aussi du statut de la femme aujourd'hui. Ça justifie pas mon projet littéraire, c'est simplement que j'y suis poreux, j'y suis sensible. Et donc c'est ça qui a fait naître en moi aussi cette idée de livre, cette nécessité que tout d'un coup ces questions d'humiliation, au fond, viennent sur cette scène-là, cette scène du masculin-féminin.
Est-ce que ça donne pas aussi de la dignité ?
Ça, c'est à vous de le dire. Mais en tout cas, j'essaye...
C'est mieux d'être l'héroïne d'une tragédie que d'un fait divers.
Oui, ah oui, ça c'est vrai. J'ai tout fait aussi pour échapper à la trivialité du fait divers et pour élever, si le mot convient, l'affaire à un rang un peu plus archaïque, plus archétypal, qui permet à des gens qui n'ont pas vécu l'histoire de ne pas la regarder comme... juste comme un entomologiste ou comme on pourrait lire ça avec la curiosité plus ou moins voyeuriste de la question d'un fait divers, mais plutôt s'identifier. crois que j'ai essayé ça, c'est d'avoir un narrateur qui soit juste derrière l'épaule de ce personnage et que le lecteur puisse arpenter la trajectoire de ce personnage. Ça, peut-être que ça, ça relève de la dignité.
Et l'entretien entre Eva Bétan et Tanguy Viel est à retrouver en longueur sur franceinter.fr.
France Inter, le 13-14.
Demain, un mouvement de grève rarissime se tiendra dans la diplomatie contre la réforme de la haute fonction publique qui prévoit la fin de ces grands corps dans lesquels les fonctionnaires travaillaient à vie. Le corps diplomatique est de cela. Et parmi les protestataires, certains signent d'un nom collectif, Suzanne Borel. Dans le vif de l'histoire, aujourd'hui, Jean Lebrun, qui était Suzanne Borel?
Eh bien, la première femme à avoir pu entrer par une porte entrebâillée dans la carrière. C'est le titre d'un de ses livres de souvenirs. Il était une fois, Bruno, un concours des affaires étrangères. C'était il y a très longtemps, 1928, avant l'ENA, avant le remplacement de l'ENA par Macron. Le ministre d'alors veut faire plaisir à sa nièce, qui s'est mise en tête de s'y présenter. Il ouvre subrepticement le concours aux femmes, mais la nièce échoue à l'oral. Alors, on n'y pense plus. Peu après, au concours de 1930, une copie a passé l'obstacle de l'écrit. Elle se révèle être, horreur et damnation, celle d'une jeune femme, Suzanne Borel. Alors il faut bien lui laisser passer l'oral.
Oui.
Et là, l'embarras grandit. Suzanne Borel, diplômée de Sciences Po, de chinois à Langzo, licenciée de philo, se révèle excellente, pleine de fougue, d'assurance, et faut la recevoir. Mais que faire d'elle ? La diplomatie est un métier, assurent aujourd'hui les agents du Quai d'Orsay. Ceux de 1930 disaient la même chose, mais pour en conclure qu'il ne pouvait être exercé par une femme. Alors, ils déposent un recours administratif, ils ne l'emportent pas, mais Suzanne Borel non plus. Aucune femme ne sera recrutée à son grade avant 44. Et elle, pour être tolérée, doit s'engager à ne pas postuler pour l'étranger, ce qui est un compte, quand même, ok, vous l'admettrez.
Oui.
Elle va contribuer à la politique culturelle française vers l'extérieur, par exemple, à la préparation du premier festival de Cannes, qui était en 39 destiné à contrer la Mostra de Venise de Mussolini. Autant que des amis reconnaissants, elle se crée des ennemis. L'écrivain Roger Perfit, qui a tâté de la carrière, l'appelle Mademoiselle Crapote ou la Crapucelle d'Orléans. Et il note avec mépris qu'elle reprise ses bas, Bruno, et tricote ses chandails.
Alors Roger Perfit n'est pas réputé pour ses actes de résistance. Non. Suzanne Borel, oui.
Le roman La fin des ambassades, Perfit toujours, commence en décembre 1938 à la fenêtre de son bureau. En se penchant, elle voit le cortège de Ribbentrop, le ministre d'Hitler, reçu en grande pompe au quai. « Voilà l'homme à abattre !» s'exclame-t-elle. En 1940, elle ne quitte pas l'administration, mais une fois son service transféré à Vichy, elle distribue autant qu'elle peut de fausses invitations à l'étranger, de visas pour l'Espagne et le Portugal. C'est grâce à elle que Louis Jouvet et sa troupe partent pour le Brésil, puis une tournée fameuse en Amérique latine. Et à Vichy, elle garde le franc-parler qui a fait sa réputation. Un jour, accidentée avec son vélo dans la montagne bourbonnaise, elle est recueillie par un cabriolet conduit par le médecin du maréchal Pétain, Ménétrel. Il lui apporte les premiers soins. Et à peine revenue dans la ville d'eau, qu'est-ce qu'elle dit ? Je veux un vrai médecin. Dans les liasses de J.O. qu'elle expédie, elle glisse des documents confidentiels qu'elle destine à des camarades qui viennent les chercher à Vichy, et parmi eux, Georges Bidault, qui deviendra président du Conseil national de la Résistance.
J.O. Journal officiel. Georges Bidault va faire appel à elle quand il est nommé au Quai d'Orsay après la Libération.
SB, Suzanne Borel, est directrice adjointe du cabinet. Il y avait bien eu une vingtaine de femmes dans les cabinets ministériels de Vichy. Mais cette promotion-là fait d'autant plus jaser que Suzanne, en 1946, devient SB. Enfin, Suzanne Bidault, elle épouse le ministre. Alors ça fait un drôle de couple qui va s'avérer insubmersible. Vous savez, à la façon du dessinateur Dubout, lui de la taille d'un moineau, pour dire vive la France, il se hisse sur la pointe des pieds. Elle, impérieuse, définitive, elle l'entraîne dans des lieux de retraite improbables, en Bretagne, en forêt de Rambouillet, il la suit sans quitter son chapeau et son costume trois pièces. Elle aurait bien fait de le retenir sur la pente qu'il descend. La défense de l'Empire, en dépit du bon sens, celle de l'Algérie française au nom de l'honneur, et ce jusqu'à justifier les pires attentats d'extrême droite. Bidault va perdre tout dans ses aventures, il va devoir s'exiler en 1962, et elle va être mise en congé par le quai. Elle n'aura pas dépassé ce rang de ministre plénipotentiaire qu'aujourd'hui les diplomates frondeurs du quai voudraient maintenir. L'exil commencé en Suisse se prolongera au Brésil, là où Suzanne avait organisé le séjour de Jouvet, et le couple rentrera discrètement en juin 68 sans retrouver jamais sa place dans la vie publique. Elle ne figure pas dans le dictionnaire des féministes de Christine Barr, elle n'en était pas une. La liberté de ses propos faisait croire qu'elle se tenait en dehors de la politique alors que tout la tirait vers la droite. Je ne sais si les jeunes diplomates qui s'abritent aujourd'hui sous son pavillon savent beaucoup d'elle, ils se sont pas trompés en la choisissant. Elle préférait la tradition à l'innovation.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire est donc cette grève dans la diplomatie française, c'est demain. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
La Terre au carré, quel est le programme ?
On s'intéresse à la disparition des oiseaux aujourd'hui.
À tout de suite.